Pour la petite histoire, ceux qui ont connu Moira Alexander, eh bien, j'ai rencontré un homme qui l'a beaucoup côtoyé, Madougou, qui a traduit la Bible en Lokpa, donc dans la langue où on a été travaillé. Il a mis 30 ans pour traduire cette Bible en Lokpa, mais il l'a fait. Et il a beaucoup côtoyé Moira Alexander et c'est resté une figure extraordinaire au Bénin. Elle a vraiment beaucoup marqué le Bénin. Donc Moira Alexander, pour ceux qui ne savent pas, c'est la fille de Hugh Edward Alexander, qui a fondé l'Institut biblique de Genève, la Société biblique de Genève, et pas mal d'autres choses. Alors quand je pense à mes frères et sœurs là-bas, avec les quelques jours que j'ai pu passer avec eux, je me rends compte combien il est difficile pour eux de rester fermes dans leur foi, de rester des témoins fidèles dans le contexte dans lequel ils vivent. Non seulement face au contexte musulman, donc l'islam vient plutôt du nord, hein, vraiment, il y a de plus en plus de musulmans, il y a vraiment les pays arabes financent énormément de mosquées, il y a énormément de mosquées toutes neuves, personne dedans, mais voilà, c'est terrain conquis. Et puis il y a la culture aussi, la difficulté de la culture. Dans le groupe d'étudiants, il y a un couple qui a la peine à avoir des enfants, et ils ont été voir un guérisseur. Donc on a un peu dû discuter autour de ça, de se dire, mais en qui tu places vraiment ta confiance? Et c'est concilié parfois, c'est difficile de parfois concilier tout cela. Mais est-ce que c'est beaucoup plus simple chez nous? Est-ce que c'est beaucoup plus simple chez nous? De plus en plus d'opposition à l'évangile dans la société, de plus en plus de pratiques ésotériques un peu partout. Si vous allez dans les hôpitaux, on fait appel aux guérisseurs pour telle ou telle situation, le coupeur de feu, je ne sais quoi. On est d'accord d'être bouddhiste, mais chrétien surtout pas. C'est compliqué, aussi chez nous. Alors, plusieurs solutions s'offrent à nous. Soit on s'enferme dans notre église, et puis on reste bien à l'abri. Ça, c'est une solution. Soit on y va à fond, et puis on risque peut-être de se fondre un peu dans cette société, faire pas mal de compromis. Parfois, c'est très arrangeant, en fait. Ou alors, on décide d'être témoin et de tenir ferme malgré tout. Parfois, on navigue entre ces trois solutions. On n'est jamais ou tout l'un ou tout l'autre. Enfin, en tout cas pour moi. Alors, comment faire? Alors, je vous invite ce matin à réfléchir autour d'un personnage biblique qui, lui, a eu un témoignage assez extraordinaire dans un monde complètement différent du sien. Je parle de Daniel. Et je vous invite à lire le premier chapitre de Daniel, on va le survoler ensemble, et puis parler de quelques autres passages de ce livre de Daniel. Alors avant de lire, on peut dire que Daniel, avant d'être un prophète, c'était d'abord un fonctionnaire d'État. Il a été fonctionnaire d'État pendant plus de 60 ans. Fonctionnaire au service de nations étrangères. Et c'est intéressant parce que le livre Daniel, c'est 12 chapitres, 6 concernent sa vie, 6 concernent les prophéties. Alors il y en a qui sont férus de prophéties, donc ils vont se concentrer sur la deuxième partie. Moi, je préfère me concentrer sur la première qui nous apporte quand même énormément. Parce que Daniel, dans toute sa vie de service, a eu une attitude assez exemplaire. Donc lisons le chapitre 1 de ce livre de Daniel, et puis quelques commentaires sur ce chapitre. La troisième année du règne de Joachim sur Juda, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de son royal ou de famille noble. Ce devait être de jeunes garçons, sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue de Babylone, des Babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels ils entreraient à son service. Il y avait parmi eux des Judéens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach, à Azaria celui d'Abednego. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Ce dernier dit à Daniel, « Je redoute mon seigneur le roi. C'est lui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi devrait-il vous voir arborer une moins bonne mine que les jeunes gens de votre âge ? À cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi. » Daniel dit alors à l'intendant auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité de lui-même, Anania, Michaël et Azaria, « Fais donc un essai avec tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. On examinera ensuite devant toi notre apparence et celle des jeunes gens qui mangent les plats servis à la table du roi. Puis agis avec tes serviteurs en fonction de ce que tu auras constaté. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et fit un essai avec eux pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure apparence et avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient des plats servis à la table du roi. L'intendant retirait donc les plats et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes à la place. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la connaissance et de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Au moment fixé par le roi, pour qu'on les lui amène, les chefs des eunuques les présentaient à Nebuchadnezzar. Pas facile celui-là. Le roi discuta avec eux et, parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels il les interrogeait, le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues présents dans tout son royaume. Telle fut la situation de Daniel jusqu'à la première année du règne de Cyrus. Un long récit qui introduit en fait une longue vie aussi de service. Ça faisait une bonne 20aine d'années que le prophète Jérémie avertissait le royaume d'Israël qu'il fallait qu'il change d'attitude. Parce que sinon Dieu allait envoyer une plaie. Ou en tout cas, ne pas les laisser dans cette situation. Et c'est pour ça qu'on peut lire au début de ce chapitre que le Seigneur donna la victoire à Nebuchadnezzar. C'est un peu choquant, on se dit, mais... Waouh, un roi étranger et Israël, le peuple de Dieu. Et pourtant, Dieu, on voit qu'au travers de toute la parole, il utilise différentes personnes, différents rois étrangers pour châtier Israël qui refuse de le suivre. Pendant 20 ans, Jérémie annonce ce qui va arriver et personne n'écoute. Et puis un jour, le couperet tombe. C'est un peu comme aujourd'hui, hein, avec le changement climatique. On nous dit plein de choses, on dit « ouais, non mais ça ne va pas arriver », puis un jour, ça va faire mal. Un jour, on va se réveiller et puis on va se dire « oula, effectivement, le changement climatique, il est là et on ne pourra plus rien faire pour que ça change. » Et puis, on voit dans ce passage que, j'ai envie de dire, vous connaissiez Nicolas Sarkozy, qui avait inventé un nouveau terme qui s'appelait la discrimination positive. Vous vous rappelez de ça ? La discrimination positive. C'est-à-dire que les immigrants qui venaient en France, eh ben, il fallait prendre les meilleurs et puis renvoyer les autres chez eux. C'est ça la discrimination positive. Hein. Ceux qui sont très bons, on les garde et puis on va peut-être les former et après, ils vont être utiles à la France. Ben, Nebuchadnezzar, il a fait ça bien avant Nicolas Sarkozy. Il prend l'élite, il prend les meilleurs du peuple d'Israël, il les forme et il les met à son service. ça a un double effet positif. D'une part, quand on vide un pays de son élite, il y a moins de risques de révolte. Et puis, d'autre part, ils ont déjà une certaine connaissance et une certaine culture, donc c'est un plus pour le pays de Babylone. Donc il fait une sélection parmi ces migrants, ou ces déportés, et ils vont les former. C'est très intelligent de sa part. Et je pense que plusieurs rois faisaient cela. On forme ces gens pendant 3 ans quand même, et puis après ils sont assimilés au peuple de Babylone. Assimilés au peuple de Babylone. Et le diable, il fait bien pareil aujourd'hui. Il s'attaque aux chrétiens qui aimeraient s'engager, avec certaines tentations aussi dans le monde, de pouvoir s'engager plus dans son métier. Et puis petit à petit, on est pris par la société, on est pris par ce monde qui nous promet monts et merveilles, qui nous donne de la bonne nourriture à manger, des bons salaires, des bonnes positions sociales. Et puis petit à petit, on rentre dans cet engrenage et puis on est assimilé. On est assimilé à la société. On ne fait plus trop la différence. On met parfois même un peu plus l'accent sur notre statut social, formation, travail, que sur l'importance de servir Dieu. Donc, Nebuchadnezzar, point 1, il donne une instruction solide, en plus des connaissances que ces jeunes gens ont déjà. Il leur donne des bonnes conditions de vie. Nourriture, boisson, enfin, ils sont bien cocoonés, bien choyés. Et puis, changement d'identité. Ils changent leur nom, d'après le nom des dieux de Babylone. Nouveau statut et assimilation, qu'on pourrait dire, complète de ces gens. Et au final, dans une telle situation, qui aurait envie de retourner chez lui ? Qui aurait envie de retourner en Israël alors qu'on est si bien à Babylone ? À partir de là, il y a 4 jeunes gens qui vont faire un pari, celui de se confier en Dieu. Et on voit que Daniel et ses 3 amis vont prendre cette position de se dire « Non, nous, on veut pas faire de compromis, on ne veut pas se laisser avoir par ça, on est prêt à servir. » Et c'est ça qui est intéressant dans ce passage et dans ce livre de Daniel. Ils ne sont pas contre le fait de servir le roi. Ils sont contre le fait de faire des compromis avec leur foi, avec leur Dieu. Ils ne veulent pas servir des dieux étrangers, mais ils sont prêts à être au service du roi. Et c'est une grosse différence. Une grosse différence. D'accord pour la formation, ok pour un autre nom, c'est pas très grave. Mais faire des compromis avec les valeurs fondamentales de notre foi, non. Qu'est-ce qui a poussé Daniel et ses amis à faire cela ? Probablement qu'ils se sont rendus compte que s'ils en sont arrivés à Babylone, c'est bien parce que le peuple d'Israël, pendant des années, a fait des compromis et a fait n'importe quoi. Et il y a eu un jugement. Il y a eu un jugement à un moment donné. Et le peuple a fait n'importe quoi. Et nos 4 amis de cette histoire, ils se rendent compte. Mais si on fait des compromis, à la fin, ça va mal se passer. Et ils décident de se mettre plus au service de Dieu qu'au service des hommes. Et il y a ce récit, et Dieu les honore. Hein. Dieu les honore dans leur choix. Déjà, il met des gens qui sont compatissants avec eux. Ils disent, ok, on va faire ce test. Hein. Alors, c'est pas pour devenir vegan. Hein. Je suis pas pro-vegan, hein, mais voilà, 10 jours de légumes, je sais pas si je porterais, moi. 10 jours de légumes. Mais c'est un choix. Ils s'engagent en disant non, on veut pas se souiller avec ça. Pas facile comme choix. Ils sont parmi des quantités d'autres déportés d'Israël et d'autres peuples. Il y a des Israélites, mais il y a plein d'autres peuples, puisque juste avant la conquête d'Israël, Nebuchadnezzar avait attaqué l'Égypte et il avait conquis l'Égypte. Et on se retrouve là, quatre petits jeunes, au milieu des autres, à manger des légumes et à boire de l'eau. Et eux, ils boivent les vins du roi et ils mangent les mets du roi. Pas facile de dire aux collègues, écoute, je ne peux pas faire ça, je suis chrétien. Je ne peux pas tricher avec les comptes, je suis chrétien. Je ne peux pas mentir aux clients, je suis chrétien. Je ne peux pas prendre un jour de congé fictif parce que j'ai ceci ou cela à faire. Hein, combien de personnes comptent, puisqu'on a droit à un jour de maladie, au moins son certificat médical, ils leur comptent dans leurs vacances. Il y a plein de gens qui font ça. Comme ça, on se fait un petit week-end prolongé quand il faut. Ben non, je suis chrétien, je suis désolé, je ne peux pas faire ça. Et nos quatre jeunes gens, ben voilà, ils se retrouvent confrontés à cela. Pas de compromis. Pas peur du ridicule. Pas peur d'être peut-être jugé par les autres dans leur prise de position. Et je dis jeunes gens parce qu'ils sont vraiment jeunes. Il devait avoir une quinzaine d'années, Daniel, quand il a été déporté. Il devait avoir une quinzaine d'années, pas beaucoup plus. Et il a pris position avec ses amis. Et ça, ce n'était pas juste une semaine, ce n'était pas juste deux, trois jours, c'était 3 ans. 3 ans pendant lesquels les quatre amis ont dû tenir ferme dans leur position. 3 ans de formation avant d'être présentés au roi. Et on voit que dans cette situation, ils ont tenu ferme, mais dans plein d'autres situations, dans la suite de ce livre de Daniel, ils ont tenu ferme aussi. Alors, on est d'accord, ça ne se passe pas toujours comme ça. Ça ne se passe pas toujours comme ça dans la vie. Parfois, on a des vrais problèmes. On voit que dans le monde entier, il y a des chrétiens persécutés parce qu'ils prennent position pour leur foi. Dieu ne les délivre pas toujours. Dieu ne leur donne pas toujours la réussite, malgré tout. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu n'est pas avec eux. Ce n'est pas pour autant que Dieu n'est pas là. Et je trouve très fort aussi dans ce livre de Daniel, je lis juste quelques versets au chapitre 3. La fournaise, hein. Chapitre 3, c'est le passage de la fournaise. Quand les trois amis, Daniel n'est pas là, vont être jetés dans le feu parce qu'ils ont refusé de plier les genoux. Et Nebuchadnezzar est hyper énervé contre eux. Il veut les jeter au feu, mais avec un feu, mais on pourrait dire d'enfer. Et qu'est-ce qu'ils font, ces jeunes gens? Ils ont une réponse assez abrupte vis-à-vis de Nebuchadnezzar, qui les menace en disant « Mais qui vous délivrera de ma main ?» Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. » Et même s'il ne le faisait pas, sache que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Ils savent que ça peut ne pas fonctionner. Même s'il ne nous sauve pas là, c'est pas grave, on ne servira pas tes dieux. Ils ont une confiance absolue en Dieu. Et c'est aussi pour ça que Dieu les sauve. Et souvent, on met l'accent sur le côté effectivement miraculeux et de cet événement. Mais qu'est-ce qui a provoqué cet événement? Pourquoi est-ce que Dieu les a sortis de la fournaise? Parce qu'ils sont restés fermes. Ils ont dit, mais c'est pas grave, tu peux nous jeter au feu. Dieu, on veut le servir jusqu'au bout. C'est très fort. Je ne sais pas si je serais capable de faire ça. Je ne sais pas si j'aurais cette fermeté face à un tel danger. Je sais que je ne l'ai déjà pas dans des situations toutes simples de la vie, que parfois j'ai tendance à faire des petits compromis, pas si grave. Alors devant une fournaise ardente. Et puis pendant 3 ans, ces jeunes sont formés et à la fin présentés au roi. Et le résultat de cette confiance en Dieu, c'est que ces 4 jeunes gens, ils ont plus de sagesse que tous les autres. Plus de sagesse que tous les autres. Et là, ils doivent avoir à peu près 18 ans. Moi, j'ai fait beaucoup de camps avec des jeunes de 18 ans. Et j'ai jamais entendu quelqu'un dire ça. Qu'ils avaient une sagesse qui surpasse tous les autres. Ils ont fait confiance à Dieu et Dieu les a honorés. Et ils ont pu être utiles dans la main de Dieu, dans une terre étrangère, avec des rois étrangers. Et ça, ce n'est pas juste ces quelques années de formation. Comme je l'ai dit au début, le ministère de Daniel, en tant que fonctionnaire, a duré plus de 60 ans. Plus de 60 ans au service de au moins 4 rois étrangers, en terre étrangère. Mais à chaque fois, on voit au travers du livre de Daniel qu'il a, chaque fois qu'il a été remis en question par rapport à sa foi, par rapport à ce qu'il croyait, il a tenu ferme. Il s'est remis, non, je ne fais pas de compromis. On connaît l'histoire de la fosse aux lions. Ben non, je ne fais pas de compromis, je continue à servir mon Dieu comme je l'ai toujours fait. Et à chaque fois, qu'est-ce qui s'est passé ? Les différents rois qui ont côtoyé Daniel et ses amis ont reconnu que le Dieu d'Israël était le Dieu au-dessus de tous les dieux. À chaque fois. Et on pourrait lire, il y a plein de passages qui parlent de cela. Que ce soit Nebuchadnezzar, que ce soit le roi Darius ou d'autres. Dans ces 6 chapitres, à de multiples reprises, ces rois païens qui croient en de multiples dieux, ils disent tous, le Dieu de Daniel, le Dieu d'Israël est le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Parce qu'ils l'ont vu à l'œuvre. Et parce qu'ils ont vu la fermeté de ses frères, de ses croyants vis-à-vis de leur Dieu. Plus de 60 ans de service en terre étrangère, et en restant ferme. C'est extraordinaire. J'avais mis comme titre à ce message, je le dis à la fin, Daniel, un service sans compromis ou l'évangélisation par l'exemple. Et pour moi, c'est vraiment ça, ce livre de Daniel. Ils n'ont pas essayé de faire autrement. Soit se mettre dans un coin et dire, on attend que l'orage passe. Non, ils sont restés fermes, ils ont été témoins de Dieu au service d'un peuple étranger. Et moi, ça me parle beaucoup parce que, comme je l'ai dit au début, on est dans une société qui se déchristianise, où les valeurs morales changent, les valeurs éthiques changent. Il y a une trentaine d'années en arrière, voir une fille en mini-jupe sur une affiche, c'était choquant. Aujourd'hui, elles sont nues. Pour vendre du parfum ou je ne sais quoi d'autre. Les valeurs éthiques et morales de notre société changent parce qu'elles se déchristianisent, parce qu'il y a de moins en moins de croyants et on ne peut plus dire qu'on vit dans une société chrétienne. Alors comment on fait ? Comment on fait ? On fait des compromis, on se dit « ça va passer, le Seigneur revient bientôt ». Ou est-ce qu'on essaye de tenir ferme, malgré l'adversité, en s'engageant là où Dieu nous place, à être des témoins fidèles. En s'engageant là où Dieu nous place, à être des témoins fidèles. Quelle que soit la situation dans laquelle on est. Je le dis facilement, Je travaille à la Société biblique de Genève, c'est facile. Ne croyez pas ça. Vivre entre chrétiens, ce n'est pas si facile. Il y a les mêmes tensions qu'ailleurs, il y a les mêmes difficultés qu'ailleurs. Et avoir une attitude juste, ce n'est pas toujours simple. Il y a longtemps, j'ai travaillé dans une entreprise où tous les jours, tous les matins quand j'arrivais au boulot, j'avais droit à une méchante vanne sur Dieu, sur Jésus, sur... J'avais un chef qui détestait les chrétiens. Et ça a duré un an, quand même. Jusqu'à ce que, voilà, je change d'optique, mais... Un an à tous les jours me prendre une vanne sur Dieu, sur ma foi, sur la stupidité d'être chrétien. Pas simple. Alors comment on fait ? On réplique, on se tasse, on se tient un carreau, ou on essaye tout au moins d'être un témoin fidèle, et puis voilà, avoir une attitude aimante malgré tout, avoir une attitude juste par rapport à ce que la parole nous demande. Je ne sais pas ce que vous vivez, vous, dans votre quotidien. Mais je pense que Daniel nous interpelle par rapport à cela. Et même si ça a eu lieu, cette histoire, bien des siècles avant le nôtre, la situation est la même. On est appelé à être des témoins, là où Dieu nous place, pour la gloire de Dieu, de manière toute simple, en étant serviteur. Avec les dons que Dieu nous donne, avec les compétences que Dieu nous donne. Et puis, si ça peut apporter un peu de lumière autour de nous, eh bien, que la grâce soit rendue au Seigneur.